A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Être un réalisateur ukrainien ou pas, dénoncer un système totalitaire ou pas, être exclusivement un raconteur d'histoire ou pas. Ces questions trottent sans doute dans la tête et sous la casquette d'Igor Minaev, cinéaste injustement méconnu. Né en Union soviétique dans un coin de l'Ukraine et installé en France depuis des années, il n'a respecté qu'une chose de la pensée léniniste, son amour pour le 7e art. On lui doit des films censurés en URSS, voire La Robe Bleue, des films sur la peur en terre soviétique, ça c'est loin de Sunset Boulevard, des documentaires sur le communisme ou encore sur le mythe de ces mineurs héroïques. La cacophonie du Donbass, c'est le titre de ce film somptueux qui fait la peau à la propagande soviétique avec une malle au trésor remplie d'archives exceptionnelles à voir dans les salles obscures à Paris dès le 27 mars. Bonjour Igor Minaev.
Bonjour Yasmine, c'est très intéressant d'écouter déjà ce que vous racontez sur moi. Je découvre aussi des choses.
Vous vous retrouvez ou pas?
Oui, oui, je me retrouve, mais c'est ça qui est bien parce que je ne formule jamais comme ça. Donc ça c'est votre point de vue, tout ça. Donc j'ai écouté avec ça, les yeux ouverts.
Ça si c'est un exercice de style qui s'appelle le portrait.
D'accord.
Que disait Lénine à propos du 7e art?
Ah ben, Lénine disait que ça, c'est vraiment le plus important.
Le plus important de tous
c'est
les
le
arts.
Cinéma, de tous les arts. Oh oui, mais vous savez, Lénine, je crois que c'était en 1918, et c'était un du premier décret, et le premier décret, c'était pour la propagande. La propagande monumentale, c'est s'appelait comme ça, c'est-à-dire la propagande visuelle. Et donc, vu la pauvreté de cette époque, etc., il faisait surtout des statues, des bas-reliefs, etc. Vu la pauvreté, encore une fois, il fallait faire vite. La population de la Russie, nouvelle Russie, en fait, etc., ils étaient peut-être 80% illettrés. Mmh. Et la propagande visuelle, ça, ça marche toujours, parce que c'est, on le voit et on comprend.
Avec un Trotsky qui a prolongé, si j'ose dire, la pensée de Lénine, puisqu'il disait « Quand nos hameaux auront des cinémas, nous serons prêts à achever la construction du socialisme.
Bah, » on connaît la suite.
On connaît la suite. En tout cas, vous, Igor, vous êtes tombé assez tôt dans le chaudron du 7e art et dans le romantisme d'un Tchaïkovski, compositeur de l'Empire russe, qui voyait, je crois, dans le mouvement de la danse slave, la silhouette d'un cygne. Igor Evgenievitch Minaev, on y est dans cette Union soviétique où vous êtes né donc en 1954. Cette musique qu'on vient d'entendre, qui est donc le Lac des Cygnes de Tchaïkovski, doit vous rappeler quand même quelques souvenirs.
Oh oui, comme vous dites, un peu quelques souvenirs, parce que de toute façon, tout le monde s'est habitué à l'époque que dès qu'il y a le Lac des Cygnes, c'est-à-dire quelqu'un du bureau politique est décédé. Donc on était vraiment gâtés. Quand Brejnev est mort, je crois qu'on diffusait le Lac des Cygnes pendant 3 jours non-stop. C'était presque un vrai ballet macabre. Voilà. Et c'était toujours le Lac des Cygnes. Ce qui est injuste, en fait.
Ce qui est injuste ?
Oui, c'est injuste, parce que c'est une musique magnifique.
Ils ont tué ce Lac des Cygnes.
Oui.
Ça veut dire que l'enfance, pour vous, a été synonyme de silence en URSS ?
Vous savez, ça dépend. C'est-à-dire que c'est pas vraiment le silence comme tel. C'était plutôt, vous savez, des non-dits. C'est un pays qui a toujours refait l'histoire. C'est-à-dire que, bon, on sait très bien ce que s'est passé dans les années 30, pendant des grandes purges, staliniens, etc., le goulag. À mon époque, on ne parlait pas de ça. C'était hyper dangereux. Donc, il fallait, encore une fois, vivre dans ce silence qu'on vous dit, et en même temps, des sous-entendus qui flottent quelque part.
Avec des tabous, en fait.
Avec des tabous partout. C'est-à-dire, on peut dire qu'on dise les Russes « Менчезнаешь, крепчеспишь ». Moins tu sais, mieux tu dors. Vous voyez, c'était ça.
Que faisaient vos parents dans cette Union soviétique ?
Bon, vous savez, mes parents, ils travaillaient comme ingénieurs. Mais de toute façon, l'Union soviétique, c'était le pays d'ingénieurs. Voilà. Vous apprenez le métier dans une école polytechnique, qui n'est pas une grande école comme à Paris, par exemple, parce que tout était l'école polytechnique, ou l'université, etc. Donc, vous devenez ingénieur.
Donc, vous travaillez pour le régime, quoi ?
Bah,
sous-entendu.
Sous-entendu, non, non, mais ça, c'est tout le monde a travaillé. Bon. D'abord, il n'y avait pas de chômage. Hein, c'est ça que les gens ne comprenaient pas à l'époque. Mais personne ne pouvait comprendre. Bah, ne pas trouver le travail. Le travail, c'était obligatoire. C'est ça. C'est-à-dire, on ne pouvait pas ne pas travailler. Et en plus, vous savez, dans un pays fermé, quand les gens ne savent pas qu'il y a une autre vie quelque part. Donc, on ne peut pas comparer. Donc, dans ce cas-là, on se dit, c'est pas si mal.
C'est normal.
Chez nous, c'est normal. En plus, il n'y avait pas vraiment des pauvres, parce que la pauvreté était ambiante. Mais quand nous sommes tous pauvres, bon, il n'y a pas de pauvres. Vous voyez, c'est ça le phénomène assez, assez spécial de l'Union soviétique.
Donc, des parents ingénieurs, comme tous les soviétiques,
oui.
Donc, qu'est-ce que vous saviez sur la génération de vos grands-parents à vous, Igor Minaïev ?
Bon, en fait, pas grand-chose. Moi, j'ai grandi avec mes grands-parents maternels. On n'a jamais, jamais évoqué leur passé pour de vrai. Bon, moi, je savais...
Ça faisait partie des non-dits ou c'était
je pense que c'est,
une
oui,
pudeur
je,
familiale ?
Non, je ne pense pas. Je pense que c'était vraiment de l'ordre de non-dits, etc., pour protéger des enfants. Parce qu'on ne sait jamais, l'enfant, il est inconscient, il va parler n'importe quoi, n'importe où, etc., etc. Donc, il vaut mieux éviter. Par exemple, ce que j'ai appris, mais bien, bien plus tard, quand il n'y avait plus personne. Et donc, j'ai appris que mon grand-père, à l'époque, il avait une carte du parti. Mais pendant des purges staliniens, il était complètement éjecté du parti, il n'a jamais voulu revenir. Et là, ce que j'ai entendu, il disait sans expliquer, si je savais, je n'aurais jamais fait. Donc pour lui, l'histoire de prendre une carte du parti, c'était inimaginable. Mais il ne pouvait pas le dire.
Alors, c'est pas parce qu'on vit en dictature qu'on est conscient qu'on vit dans une dictature. Hein. Vous êtes peut-être d'accord avec
tout
ça,
à fait.
Igor. À quel moment, vous commencez à prendre conscience de la dimension totalitaire du régime soviétique ?
Doucement, comme ça, je sais pas, à l'âge de peut-être 18 ans, quelque chose comme ça.
Pourquoi 18 ans ?
Bah, quand j'ai commencé mes études du cinéma. Vous savez, l'Union soviétique, c'était quand même un système de double pensée, de tout ce qui est double. Et donc, à l'école du cinéma, par exemple, parmi des disciplines obligatoires, etc., qui étaient assez vastes comme programme, c'était formidable. Mais, en parallèle, bon, on a regardé des films dans l'histoire du cinéma, etc., etc. Et, en même temps, on a regardé tous les films que les gens regardaient à Paris, pratiquement au même moment. Et ça, c'était vraiment... On était des privilégiés énormes. C'était
donc il n'y avait pas de censure, là, à ce moment-là.
Ah non, non, non. Ça, c'était des projections, disons, privées pour les gens de la profession.
Donc c'est ce que vous appelez le côté double. C'est-à-dire que ça, vous pouviez,
oui.
De façon officieuse,
bah, oui,
découvrir ce travail qui se faisait à l'ouest, comme on disait.
Bien sûr. C'est-à-dire
mais
que
intramuros,
le soir... Je me souviens, quand j'étais étudiant, c'était le film de Bertolucci qui est sorti. C'était Le Conformiste. On l'avait vu. Et après, vous sortez, vous êtes dans la situation soviétique, dans le paysage soviétique. Comment vous pouvez vivre après avoir vu des choses et continuer à vivre comme si ça n'existe pas ?
Eh oui.
Ça, c'est vraiment, c'est complètement schizophrène.
Donc c'est ça, votre prise de conscience, elle commence avec ça, et vous allez vous-même vous frotter à ce qu'on appelle la censure dans cette Union soviétique. Vous allez commettre plusieurs films qui vont finir dans la poubelle ou dans les fonds de tiroir, mais que vous avez en même temps sauvé, Igor Minaïev, et auquel vous avez redonné une seconde vie, ou une vraie vie, si j'ose dire, dans La Robe Bleue. C'est quoi le fil d'Ariane entre les trois courts-métrages que vous avez récupérés de ces fonds de poubelle?
Le sujet, c'est un jeune homme, aujourd'hui, à Paris, qui découvre, après la mort de sa mère, il découvre sous son lit, il découvre des bobines dont il ne pouvait même pas soupçonner leur existence. Et donc là, il commence à les regarder, il découvre qu'en fait, il ne savait rien du tout de sa mère, d'où elle vient, etc. C'est vraiment la question d'identité, qui je suis et d'où je viens. Voilà. Et là, j'ai mis beaucoup de choses. J'ai mis que ça se passe à Odessa, c'est une ville où j'ai travaillé, et c'est une ville que j'aime beaucoup, donc, et ainsi de suite.
Alors, j'aimerais qu'on s'arrête une minute en sol majeur sur donc, L'Horizon argenté, ce film qui a été censuré et dont le négatif a été brûlé. L'histoire se passe dans un village soviétique profondément paysan, où la belle Katerina, qui est une fille mère, est convoitée absolument par tous les hommes du village, mais elle est abandonnée par le seul homme qu'elle aime. Et puis un jour, une vieille femme, un peu mendiante, un peu sorcière, lui rend visite.
Возьми. Ну что ж ты стоишь? Я ж тебя целое утро жду. Бери. Ну, Мотри, покатай.
Нет, не могу, Катерина. Не проси.
Ну как же, Мотри? Как же ты не можешь? Ты же мне обещала вчера.
Да ты на себя посмотри. Трудно бабе с такой красотой. Каждый ухватить норовит.
Стой, Мотри.
Ладно, скажу, Катерина, ты... скажу. Ушла от тебя твоя судьба. А я ее видела. Сидит она в камышах, в воду смотрит и все песни поет. Ой, смотри, как бы она не накликала на тебя беду.
Extrait en sol majeur sur RFI de La Robe Bleue, donc avec cette mise en abîme de l'un de vos courts-métrages, Igor Minaïev, L'Horizon argenté, que vous réalisez en 1978. Une rapide traduction de cette scène que vous venez d'écouter.
Oui, d'accord, c'est la sorcière, la mendiante, comme vous dites, qui vient chez le personnage principal, Katerina, et que Katerina, elle demande de lire les lignes de la main. Elle dit non, mais je veux savoir... comment vivre, je suis perdu. Il dit, écoute, tu sais, pour une femme, d'être belle, c'est très difficile. Je ne peux pas te dire combien de temps tu vas en souffrir.
C'est un film magnifique en noir et blanc. Vous y montrez une paysannerie qui boit beaucoup, qui danse beaucoup, qui chante beaucoup, qui est un peu dans la survie, qui est aussi entre croyance et superstition. Qu'est-ce que le comité de censure soviétique vous a reproché à l'époque?
Mais justement, tout ce que vous avez vient de dire. C'était justement ça. Non, mais il y avait deux choses. Parce que ça, j'ai tourné à Odessa, c'était après en Ukraine et tout, dans un village oublié quelque part. Mais la production, proprement dite, c'était à Moscou. Et à Moscou, à cette époque, ça s'appelait une unité, le début, qui, en fait, était censée de vous donner la liberté totale. Ben, j'étais naïf. Et en fait, c'était vraiment un deuxième filtre pour arrêter des jeunes réalisateurs qui ne sont pas tout à fait manipulables. Donc ça, c'est je suis tombé dans le piège. Et après, quand j'ai montré le film, c'était un énorme scandale. Tout ce qu'ils m'ont reproché, je me moque de tout le monde. Je me moque des Russes, je me moque des Ukrainiens, parce que nos gens, ils ne sont pas comme ça. Ils ne boivent pas, ils ne dansent pas, ils ne sont pas déchaînés comme ça, etc.
Je dis, il n'y a pas d'adultère.
Non, il n'y a pas d'adultère. Ce sont des gens formidables, propres, etc., carrés, purs. Et là, c'est vraiment, ils sont déchaînés. Je dis, mais ça s'appelle quand même un mariage. Donc c'est la joie.
Quelles ont été les conséquences pour vous de cette censure?
Les conséquences étaient assez dures. C'est-à-dire que je suis sorti avec l'interdiction de travailler en tant que réalisateur. Ils ont dit qu'il est incapable.
Alors, cette robe bleue, là, qui met le doigt, en fait, sur un problème de vérité presque généalogique, un fils découvre, après la mort de sa mère, qui était véritablement sa mère. Elle a aimé un réalisateur à la folie, et elle a tourné pour ce réalisateur. Le fait d'exhumer, comme ça, ce court-métrage, entre autres, hein, est-ce que c'est pour vous une manière de signer une sorte de manifeste sentimental sur la vérité généalogique des ex-soviétiques?
Vous savez, je ne sais pas, peut-être inconsciemment, oui.
En tout cas, est-ce que vous diriez que c'est finalement cette histoire de censure soviétique qui vous a poussé dans les bras de l'Occident?
Oui, bien sûr. Vous savez, jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai pensé que de toute façon, un jour, tout sera possible. Et à partir de cet âge-là, je me suis dit, non, je suis beaucoup moins optimiste. Et faire vraiment des choses que le studio vous proposait, mais je ne pouvais pas, c'est pas parce que, vous savez, je ne suis pas un héros, je ne suis pas un dissident, etc. Mais il y a des choses que je ne peux pas faire.
Un schizophrénique quand même très intéressant.
Peut-être,
parce que vous aviez bien compris la charte, le mode d'emploi, que vous transgressiez allègrement quand même. Ce qui n'est pas le cas, j'imagine, de tous les réalisateurs dans cette Union soviétique. Transgresser, c'est... Est-ce que ça s'apprend?
Écoutez, moi j'ai payé assez cher.
Est-ce que ça a été compliqué physiquement de quitter l'URSS, que vous avez quitté avant la perestroïka, hein?
C'était compliqué, oui, parce que en partant, vous imaginez quelque chose, ce que vous attend sans savoir, mais en même temps, vous laissez des choses, et vous laissez surtout des gens. Vous voyez, c'est ça qui était difficile, le plus difficile. L'idée de peut-être ne plus jamais les revoir, ça c'est très très dur.
Enfant, est-ce que vous rêviez de faire la révolution?
Igor Minaïev.
Non, j'ai jamais rêvé faire la révolution. Déjà, on a subi une en 1917. Donc, non, j'ai jamais rêvé.
Ça faisait envie, non?
Non. Je peux vous dire non.
Même pas non, dans l'histoire non. Officielle? C'était pas glorifié?
Non, jamais.
Les bolcheviks avaient gagné?
Ah oui, mais les conséquences, on a subi. Donc ça c'est en deux étapes. Non, 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 non.
Vous étiez un gentil petit garçon. Donc en tout cas, dans la tête du petit bonhomme, je ne sais pas, mais c'est déjà plus clair quand on se rapproche de celui qui vient de réaliser un documentaire intitulé « La cacophonie du Donbass ». Le travail a glorifié son pays et son époque. C'est le mouvement stakhanoviste qui chante fièrement tout un peuple d'ouvriers unis comme un seul homme. Votre documentaire, Igor Minaïev, s'ouvre sur la figure du fameux Alexis Stakhanov. Rappelez-nous qui il était.
Bah, ça, c'était le grand mineur qui a battu tous les records possibles. En fait, tout ça, c'était faux.
Il a fini tragiquement. Hein,
il a fini sa vie à la façon tragique. Oui, absolument. À la façon tragique, parce qu'il était monté au nu. Il n'était pas prêt, parce qu'il savait que derrière tout ça, il n'y avait que du mensonge. Mais il a accepté le jeu. Évidemment, qu'est-ce qu'il pouvait faire, pauvre? Parce qu'après, c'était le mouvement des stakhanovistes. Donc, c'était un mensonge qui était multiplié après par mille. Et donc, il est parti finalement à Moscou. Il a eu un appartement sur le quai, juste en face du Kremlin, et Staline l'aimait. Et donc, tant que Staline était vivant, Stakhanov, il était bien placé. Mais Khrushchev, il ne l'aimait pas. Et dès que Khrushchev, il a pris le pouvoir, il a dit Stakhanov, oust. Donc Stakhanov, il était renvoyé à Donbass. Il était complètement démoli. Il y avait des témoignages absolument horribles, comment il a vécu, comment il était, mais vraiment dans la rue. Et après, il est devenu alcoolique. Il a fini sa vie en asile psychiatrique, c'est là où il est mort.
Alors, il faut dire tout de suite que votre cacophonie du Donbass fait en fait référence à la fameuse symphonie du Donbass, ce grand film des années 30.
Oui, tout à fait. Bon, c'est un grand classique du cinéma soviétique, le film de Dziga Vertov, qui était un film de propagande. De toute façon, ça ne pouvait pas être autre chose qu'un film de propagande. Et en fait, le but de ce film-là, c'était d'attirer des gens, d'aller travailler dans les mines, parce que à cette époque-là, tout est en ruine. Donc elle fait ce film de propagande. Qui veut aller travailler dans les mines ? Apparemment personne. C'était bien payé, d'accord ? Mais c'était vraiment la première pierre qu'il a mis dans ce énorme mythe des mineurs de Donbass. Donc ça c'est grâce, ou à cause de la symphonie du Donbass, qui était bien reçue partout dans le monde. Charlie Chaplin disait « Ah ça, c'est la meilleure symphonie que j'ai jamais entendue. » Mais tout le monde jouait le jeu.
Donc vous, vous racontez comment cette symphonie est devenue une cacophonie. Pendant toutes ces années de mythification, les mineurs sont donc présentés comme des héros sans aucun défaut. Si, un peut-être, l'alcoolisme. Il y a une scène absolument hallucinante dans votre documentaire de thérapie médicamenteuse, parce que l'URSS apparemment soigne l'alcoolisme. Sauf qu'un jour, comme l'explique la voix off de votre cacophonie, le décor de ce mensonge d'État s'écroule et les vrais mineurs sortent dans les vraies rues pour raconter leur vraie vie. La grève du Donbass commence le 15 juillet 1989.
On nous roule dans la farine. On nous propose de reprendre le boulot, mais on n'ira pas avant d'avoir reçu satisfaction. Ne faites confiance à personne. Ils disent que Donetsk travaille, Donetsk fait grève. On ne reprendra pas le boulot avant la satisfaction entière de nos revendications. On est complètement solidaires. Je sais que le parti fasciste, c'est presque comme le parti communiste. C'est injuste, oui. C'est injuste. J'ai été élevé avec des idéaux.
Quand il y a eu la grève des mineurs en Angleterre, tout le monde les a soutenus. On a même collecté des fonds. Pourquoi on ne dit pas qu'on est soutenu ? Pourquoi on ne dit pas que les mineurs du monde entier nous soutiennent ? Ils envoient des télégrammes de soutien et même de l'aide matérielle. Pourquoi on n'en parle pas ?
2 ans dans la mine octobre, pour 400 roubles. Quand tu sors, on ne voit plus que tes dents. Ma mère est venue une fois, elle ne m'a pas reconnue. Je lui dis, maman, viens, regarde. Elle s'est mise à pleurer. Fiston, qu'est-ce qu'ils ont fait de toi ?
Igor Minaïev pour RFI en sol majeur. On voit dans votre documentaire donc une marée humaine lors de cette grève des mineurs avec tous ces corps de mineurs burinés, assis par terre. Ce sont des sittings, des vrais sittings comme on n'en avait jamais vu. Il y a aussi ces archives impressionnantes de très jeunes mineurs morts. Le visage calciné, ce sont des archives que le régime soviétique a évidemment cachées. Ces archives exceptionnelles ont nourri votre cacophonie du Donbass. Où est-ce que vous avez mis la main sur ces archives ?
Vous savez, en fait, on peut dire que ça, c'est 89. C'est vraiment la première grève de mineurs qui était étouffée complètement par la presse. Et c'est vraiment par miracle. C'est un réalisateur de Kiev qui est passé à cette époque par Donbass parce qu'il est parti pour ses vacances. Et personne ne savait rien du tout ce qui se passait à Donetsk à cette époque-là. Et donc, lui, en traversant Donetsk, il tombe sur la grève. Donc, il commence à chercher de la pellicule à l'époque. Le studio refuse en disant on n'a pas de pellicule. Il les ramasse de partout et il court vraiment à Donetsk pour filmer. Et là, il reste, il pensait de rester en 2-3 jours, il est resté jusqu'à la décision de Gorbatchev qui finalement a accepté tout ce qu'il demandait des mineurs. Voilà, c'était vraiment la victoire. Et dans le film, on voit qu'il n'y a que des journalistes de CNN qui étaient autorisés. Mais c'est un seul témoignage qui existe. Ce réalisateur, vraiment chapeau. C'est, pour une fois, ce n'était pas des mises en scène.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que pour une fois, la propagande qui a œuvré pour la falsification du récit national, comme on dit aujourd'hui, là, les images sont l'antidote, on va dire, du mensonge d'État.
Tout à fait, tout à fait. C'est ça que c'était un vrai choc, parce que pour une fois, on n'a même pas vu, parce qu'à cette époque-là, à 89 et 90, ça c'est la perestroïka, d'un côté il y a la liberté d'expression et tout, et de l'autre côté, vous savez, les systèmes tombent en miettes, c'est-à-dire il n'y a plus de système de distribution des films. Et qu'est-ce que vous faites avec un film, et en plus avec un film documentaire? Rien du tout. Donc ce film-là, il est resté complètement en oubli. Voilà.
Et c'est à partir de ça, de ce fonds d'archives-là, que vous vous êtes dit, il faut absolument que je signe un documentaire sur les mineurs du Donbass?
Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. En fait, cette idée m'est venue vraiment quand j'ai appris, et c'était sur Internet, cette histoire qui est arrivée à Irina Dovgan, cette femme qui était attachée au poteau. C'était déjà quand la guerre a commencé. C'était à 2014, à l'est de l'Ukraine. Et le jour de l'indépendance, cette femme qui travaillait dans un salon de beauté, elle était arrêtée parce qu'elle donnait un coup de main à l'armée ukrainienne. Elle était arrêtée par des séparatistes, c'est assez vaste comme sujet.
En tout cas,
ouais. Elle était arrêtée, elle était torturée, et après, vraiment, pour faire la fête, elle était attachée au poteau, avec un drapeau ukrainien, et des gens qui passaient, ils crachaient sur elle, ils l'ont battue, et... Heureusement, juste à ce moment-là, il y avait un journaliste de New York Times. Il a pris des photos. Il est allé chercher un des supérieurs des séparatistes pour arrêter. J'ai vu ça. On n'a pas de mots pour dire que... Mais comment c'est possible?
En tout cas, cette grève des mineurs qui démarre en 89 fait tomber quelque chose de cette dictature prolétarienne. Les tabous eux-mêmes se tombent, hein, finalement, un à un. Et l'un des grands tabous qui tombe, c'est celui de l'argent. Il y a par exemple une jeune chanteuse des années 90-2000, une chanteuse, je ne sais pas si c'est une chanteuse ukrainienne, qui chante « Je suis venue sur cette terre pour rouler en Mercedes, je suis venue au monde pour tailler des pipes sur des yachts ». C'est-à-dire que là, on est dans un basculement de mentalité dans ces années 90, incroyable.
Bah... Là, c'est tout devient clair. Le système communiste tombe en miettes et le système capitaliste sauvage la remplace. Pour résumer, on peut dire que seul l'argent a gagné. Donc tu gagnes comme tu veux, mais il faut que tu gagnes. Il faut vraiment de l'argent.
Au début des années 90, Vladimir Borumensky, un habitant de Donetsk, a décidé d'en finir une fois pour toutes avec le communisme. Il a ramassé des sculptures des leaders soviétiques, les a transportées en Crimée et plongées jusqu'au fond de la mer Noire. À 12 mètres de profondeur, il a installé un buste de Lénine avec l'espoir que le spectre du communisme ne remonterait plus jamais à la surface. Dans ce musée sous-marin, il a réalisé une allée des chefs. Il y a mis le buste de Karl Marx, épaules serrées contre Lénine, et ceux de Staline et de Dzerjinski. Un garçonnet est allé faire un tour dans les fonds marins en tenant Lénine par la main.
Scène surréaliste à retrouver donc dans votre cacophonie du Donbass, Igor Minaïev, et apparemment... À partir du moment où Pouchkine et Tchaïkovski rejoignent cette fameuse allée des chefs dans les fonds marins, l'idée d'indépendance ukrainienne commence un peu à germer dans les têtes. Et la chose terrible qui arrive, c'est donc cette fameuse guerre que vous évoquiez, cette guerre en 2014, où les habitants du Donbass découvrent en fait qu'ils ne sont ni russes ni ukrainiens. C'est quoi l'identité du Donbass finalement?
C'est un vrai problème. Donbass, c'était toujours... le territoire ukrainien. Les gens parlaient russe, ça gênait personne. Et les gens parlaient ukrainien, ça gênait personne. Il y avait des époques quand l'ukrainien, comme la langue, c'était interdit. Et à partir de 91, quand l'Ukraine devient un État indépendant, l'ukrainien devient la langue officielle. Mais je pense que c'était un peu brusque. si vous voulez. Parce que dans ce pays-là, les gens parlaient deux langues. Moi, je suis né à Kharkov, c'était une ville où tout le monde parlait russe. Moi, quand j'étais à l'école, par exemple, tout ça, c'était en russe, évidemment. Mais il y avait des cours, la littérature ukrainienne et la langue ukrainienne. Et les parents, ils ont dit, ils ne parlaient pas ukrainien. Ils ont dit, écoute, tu sais, tu vis dans un pays qui s'appelle l'Ukraine. Donc, excuse-nous, mais tu vas quand même prendre le cours de la langue ukrainienne. Et c'était bien.
Pourquoi avoir signé ? Pour quelle raison profonde avoir signé ce documentaire, La cacophonie du Donbass ?
Vous savez, moi je pense que c'est très très important. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la haine ambiante partout, pour plusieurs raisons, et partout dans le monde. Et le Donbass, malheureusement, ça fait exemple. Et je pense que quand on manipule des gens pendant presque un siècle, on arrive à ce résultat triste. Et je ne sais pas, je ne pense pas qu'un film peut changer le monde. Mais si on ne parle pas de ça, c'est-à-dire qu'on approuve les choses vont durer. Donc je pense qu'il faut qu'on en parle. Близенько спішу я до тебе, біж моє серденько, спішу я до тебе, біж моє серденько, спішу я до тебе. Щоб не чула мати, як ти мене впустиш. Щоб не чула мати, о, як упускала, за ручку стискала, о, як випускала. Плакала, ридала, о, як випускала. Правдоньки питала, чи ти мене любиш? Ой, чи ти смієшся, до другої ходиш? Дай не признаєшся, до другої ходиш? Дай не признаєшся, а я тебе люблю. Щоб раки не будуть, тільки признаюся.
Pour un son majeur sur RFI, cette question au réalisateur Igor Minaïev. La terre ukrainienne donc, que vous avez quittée il y a longtemps maintenant a toujours une voix, c'est donc celle du trio Marinich.
C'est magnifique.
Magnifique. Chanson d'amour.
Oui, oui, forcément. Chanson d'amour triste.
Ah, forcément.
Bah oui. Ça ne peut pas être autrement, sinon c'est pas l'amour.
Alors il y a un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'une certaine Véronica succombe aux avances de son cousin, pendant que son fiancé, lui, est au front. Ça vous dit quelque chose?
Stoy, stoy, Mirka. Одевай, одевай.
А журавлики и кораблики летят над ними сами. И серые, и белые, и с длинными носами. Смотри, 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 смотри.
Ну вот тебе. Твои журавлики. Кораблики.
Пейком патриотизм.
Bon, Minaïev, on est dans le cinéma soviétique, mais alors là, jusqu'au cou, avec un extrait de « Quand passent les cigognes » de Mikhaïl Karatozov. Palme d'or, hein, quand même, à Cannes en 58.
Bah, seul et unique.
Seul et unique. On était à ce moment-là sous Khrouchtchev. Alors, il n'est pas là par hasard, hein, ce film, parce qu'il est important pour vous. Pour quelle raison?
Écoutez, moi, je trouve que c'est vraiment le meilleur film soviétique. Alors, le film est sorti à 58. Et donc... la guerre était encore récente. Et tout à coup, il raconte l'histoire d'une femme dont le fiancé est parti à la guerre et elle oublie son fiancé. Et finalement, elle se marie avec son frère. Tout à coup...
Avec le frère du fiancé.
Oui, hein. Avec le frère du fiancé. Mmh. Voilà. Et tout ça...
Pas toutes les transgressions en même temps.
Non, 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 pas tout. Voilà. elle apprend que son fiancé est mort à la guerre. C'est quand même assez osé.
C'est une remise en cause du fameux patriotisme.
Complètement.
Auquel vous avez tété vous-même, gamin, Igor Minaïev. Est-ce que vous, l'expatrié, on peut vous appeler comme ça, vous vous sentez proche davantage de la diaspora russe ou de la diaspora ukrainienne?
Vous savez, pour moi, ça c'est un peu compliqué pour moi parce que en fait, je suis né dans un pays qui n'existe plus, l'Union soviétique, et je suis né en Ukraine. À l'époque, c'était une république. Aujourd'hui, c'est un État indépendant. J'ai parlé toujours russe et je comprends bien ukrainien. Je peux pas dissocier les choses. La situation actuelle, c'est pas normal, je trouve, et je sais que mon idée ne plaît pas à tout le monde, mais je pense que c'est deux peuple qui était toujours proche, ça c'est normal.
Donc l'indépendance ukrainienne, c'est pas quelque chose qui vous
formidable.
Satisfait?
Non, ça c'est, je suis ravi, vraiment, ça c'est bien que l'Ukraine est devenue, pour une fois dans son histoire, l'Ukraine est devenue un État indépendant. Mais le fait qu'aujourd'hui il y a cette confrontation à cause de la guerre à Donbass, évidemment, à cause de la Crimée, mais culturellement, quand même, on est proches, nous sommes proches. On avait une histoire commune, oui. Déjà, une histoire dure. Mais on ne peut pas quand même se diviser si facilement.
Où est-ce que vous étiez, vous, Igor Minaïev, en 2013-2014, pendant la révolution du Maïdan? Est-ce que vous étiez pour un rapprochement de l'Ukraine avec l'Europe ou pas du tout?
Ah si, bien sûr. Voilà, je veux bien sûr que si un jour l'Ukraine peut faire partie de l'Europe, ce sera vraiment formidable. Donc justement, c'est ça qui a fait exploser le Maïdan. Vous savez, on dit, je ne sais plus, que je crois que c'est Chalamov qui a écrit que au goulag, dans les camps, là où il y était des Ukrainiens, donc il y avait toujours des révoltes. Donc c'est pas étonnant qu'en Ukraine, ça a explosé plusieurs fois, parce que les Ukrainiens savent révolter. Voilà. Et c'est vrai que après la révolution orange, qui était une révolution formidable, pacifique, joyeuse, etc., il s'est passé rien. C'est, le résultat était raté. Et c'est après le Maïdan que tout est changé. Tout
Mais vous souhaiteriez une espèce de paix des braves, on va dire, avec la Russie quand même.
Moi, j'espère.
C'est ce qui vous désespère, ça.
Oui, moi j'espère qu'un jour, les gens de Kiev, ils pourront aller à Moscou, à Saint-Pétersbourg, avec le cœur léger, pour voir l'Ermitage, pour voir la galerie Tretiakov ou le théâtre Bolchoï, et que les gens de Moscou, ils pourront se rendre à Kiev avec la joie. Ça, je souhaite vraiment de tout mon cœur.
Quand vous allez là-bas, est-ce qu'il y a une maison qui vous attend en Ukraine?
Vous savez, en fait, il n'y a plus rien. J'ai plus de famille en Ukraine. Et à Kharkov, là où je suis né, où j'étais la dernière fois, il y a très très longtemps, en plus je suis allé pour le film, pour le repérage, et je devais y aller bientôt. Je suis invité par l'Alliance française pour présenter mes films, quelques films là-bas.
Donc vous êtes un réalisateur étranger là-bas, en fait?
Oui, voilà.
Vous êtes un réalisateur français, même?
Bon, je suis pas. Non, je pense que les Français ne me traitent pas comme un réalisateur français. Je reste un peu réalisateur soit russe, soit ukrainien, etc., etc. C'est ça qui est drôle. On peut pas être tout simplement un réalisateur.
Ça c'est le Graal, vous savez, c'est plus cher. Hein.
Oui, c'est plus cher. Mais c'est la question que je me pose de temps en temps. Et je me suis dit, bah, si je peux faire les films que j'ai envie de faire, ça c'est le principal.
Alors, je ne sais pas si vous vous sentez encore un peu chez vous en Ukraine, mais est-ce que vous vous sentez aujourd'hui chez vous en France, Igor Minaïev ?
Quand je rentre après un voyage, je me dis toujours que je rentre chez moi. Donc je me sens chez moi.
Allez, je vous emmène au pays des râleurs et des arrogants si charmants.
Sur la religion, disons que non, je n'ai pas tout dit, enfin... Ça commence un petit peu avec les particules. J'ai beaucoup insisté à la poussière du Nil. C'est rien à l'idée chez moi que l'Occident a bien du mal à survivre à la perte de sa religion et donc que le vide créé va ramener une autre religion. Donc dans la poussière du Nil, c'est une religion nouvelle basée sur la science. Là, c'est une vieille religion qui revient, l'islam. Je constate que oui, il y a un épuisement, il y a un épuisement du monde sans religion, oui.
On va prendre mon cas particulier, mon problème à moi touche quand même l'ensemble des Français, c'est-à-dire le pouvoir d'achat en priorité. Enfin, on en est tous, encore une fois, à survivre et non vivre. Et nous, ce qu'on demande, c'est vraiment à vivre de notre travail, payer des impôts, des factures, c'est pas le problème, mais aussi, à côté de ça, que nous, on puisse emmener nos enfants faire diverses activités, s'occuper un petit peu plus de nos femmes. On s'est séparés de tous ces à côté, le cinéma, les sorties avec les enfants, voilà. Et nous, ce qu'on demande, c'est à vivre.
J'y comme j'aime, j'aime pas.
Est-ce qu'en écoutant ce gilet jaune pour en sol majeur sur RFI, vous diriez, Igor Minaïev, que vous êtes un fan de la contestation à la française ?
Oui. Oui, si vous voulez, en général, oui. Au moins, on peut dire ce qu'on veut. On peut sortir dans la rue. Et c'est pas dans tous les pays que c'est possible. Mais en même temps, on peut dire que la révolution d'octobre, etc., de 1917, elle était basée sur l'expérience de la révolution française. Donc ça, c'est ce que disait Lénine ouvertement, ça c'est vrai. Donc ça, c'est...
Donc retour à l'envoyeur.
Voilà.
Est-ce que vous descendriez vous-même avec les gilets jaunes dans la rue ?
Vous savez, je ne suis pas militant tout court. Chacun fait des choses par ses propres moyens. Moi, je fais des films.
Est-ce que le fait de ne plus avoir de régime totalitaire à contourner, ça a changé, vous pensez, votre écriture cinématographique ?
Non, pas du tout, parce que je me sentais assez libre de toute façon depuis toujours. Donc, voilà.
Même en Union soviétique, vous vous sentiez libre ?
Ah oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je n'ai pas travaillé. C'est ça ? Ouais. Oui.
Les gens sont soit des livres, soit des journaux. C'est ce qu'on disait dans la Russie d'autrefois pour dire que chaque Russe avait un poème en tête, etc. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme littérature ? On a écouté la voix de Houellebecq tout à l'heure, vous m'avez dit « Oh non, non, avec une grimace épouvantable, non, je ne veux pas parler de Houellebecq. » Mais vous le lisez quand même.
Oui, bien sûr, bah oui, non, je lis beaucoup. Je lis Houellebecq, évidemment, mais je lis... Mais vous savez, ce qui m'intéresse vraiment, c'est... Déjà des biographies, autobiographies, des gens connus. À l'époque, c'était impossible de les sortir. Aujourd'hui, ça sort. Je sais pas. Bah, Marina Tsvetaeva, à mon époque, elle était inexistante.
Oui.
Mandelstam, c'était inexistant. Pasternak, Docteur Zhivago, c'était pas possible. Voilà.
Mais aujourd'hui, parce que j'ai l'impression, vous avez une première vie en Union soviétique où vous avez forcément été inoculé par, je sais pas, la poésie de Pouchkine, la pensée de Tolstoï, enfin, les films des Einstein qu'on n'a pas le temps d'évoquer, mais ce sont vos premières marottes, on va dire. Mais 30 ans de vie en France font que vous avez des repères aussi en littérature française, en cinéma français, Igor Minaïev ?
Bon, sûrement, oui, sûrement.
Parce qu'on a l'impression que vous vivez, là, de la manière dont je vous ai présenté, en tout cas, dans une bulle un peu soviétique,
non,
ukrainienne.
Non, je vis ici, aujourd'hui, j'adore UNESCO. Et quand j'étais prof, etc., avec mes élèves, on a travaillé UNESCO, parce que c'est drôle, c'est absurde, c'est sérieux. Voilà, on a travaillé beaucoup, j'aime beaucoup Apollinaire. Non, mais je peux faire la liste. On va pas faire
de liste. Hein. On a tous en nous quelque chose de Tchaïkovski, hein, on dirait, pour en sol majeur sur RFI. Donc je disais, Eisenstein et Tchaïkovski font partie de vos premières amours, Igor Minaïev. Pourquoi Tchaïkovski ? Est-ce que c'est parce que c'est, en tout cas aux yeux d'un occidental lambda, c'est l'incarnation de l'âme slave ?
Je sais pas, j'aime beaucoup sa musique. Pour dire deux mots sur le premier concerto, ben voilà, c'est un exemple formidable parce que Tchaïkovski, quand elle a fait la partition, elle est allée voir le plus grand interprète de cette époque, Nikolaï Rubinstein, et lui a montré la partition. Et Nikolaï Rubinstein, il a dit, non mais quand même, c'est pas possible tout ce que tu as écrit. C'est vachement pas commode de jouer comme ça, parce qu'il fallait changer. Et Tchaïkovski, qui était quelqu'un assez timide, il a dit non. Tchaïkovski, il a refusé de changer la partition. Heureusement, on a ce chef-d'œuvre. Voilà, c'est ça, un vrai artiste.
C'est ce que vous avez fait vous-même. Vous avez refusé de changer de ligne, de ne jamais rejoindre celle du parti.
Non, je ne compare pas avec, mais...
C'est un phare dans la nuit, ce Tchaïkovski.
Tchaïkovski, c'est un personnage incroyable, c'est vrai. La vraie histoire de Tchaïkovski, c'était impossible de te parler de Tchaïkovski comme il était dans la vie, parce qu'il était homosexuel. Et même aujourd'hui, on dit « Ah non, Tchaïkovski n'était pas homosexuel. » Et pourtant, sa correspondance, elle est publiée. Il était timide, il était modeste, il avait peur de tout le monde. Il buvait beaucoup, il fumait beaucoup à cause de cette timidité incroyable. J'ai un sujet sur Tchaïkovski, sur tout ça.
Ah oui,
donc je travaille.
C'est un film.
Je travaille depuis des années.
Possible.
Ah oui, j'espère.
Vous souhaitez, en tout cas j'ai cru entendre ça tout à l'heure dans cette conversation, qu'on ne vous présente plus comme un réalisateur russe ou ukrainien. C'est bien ce que je comprends, c'est que vous souhaitez être présenté comme un réalisateur. Point. Mais une dernière question.
Ça n'existe pas,
en
malheureusement.
En sol majeur, c'est difficile. Oui. C'est un combat.
C'est un combat.
Est-ce qu'être français, par ailleurs, ça veut dire quelque chose pour vous ?
Je ne sais pas, c'est difficile à dire. En tout cas, ça fait... un peu plus que 30 ans que je vis à Paris, je dirais plutôt se sentir parisien parce que je vis ici. Mais parisien dans le bon sens.
Conseil en sol majeur à ne pas rater donc la cacophonie du Donbass, ce somptueux documentaire qui sort en salle à Paris le 27 mars. Merci Igor Evgenievitch Minaïev d'avoir fait tout ce trajet jusqu'à en sol majeur. Tania Tsikounas, Juliette Brou, Laura Pinto, Yasmin Chouaki, on vous retrouve et on vous espère demain avec Elisa Diallo.
Yeah.